La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. Depuis qu'ils sont devenus les stars du cinéma d'horreur, les requins doivent supporter une réputation de tueurs en série et pourtant les accidents mortels sont très rares et masquent le rôle essentiel de ces poissons dans les écosystèmes marins. Les requins font l'objet de nombreux travaux pour comprendre non seulement leur biologie mais également leur mode de vie et leur comportement. Et le biologiste marin Éric Clua s'intéresse entre autres à la problématique des morsures de requins sur l'homme. Ses recherches ont permis d'éclairer d'un jour nouveau la personnalité donc de ces poissons fascinants. Il est mon invité dans un instant et il répondra à toutes vos questions sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
À la une aujourd'hui Axel, on se met en quête de la matière noire et ça n'est pas une mince affaire.
Non Mathieu, pas du tout. C'est tellement compliqué de détecter le passage des particules de matière noire en direct que des chercheurs ont décidé d'aller les chercher dans le passé. Les explications dans un instant.
Et puis dans la dernière partie de l'émission, nous retrouvons le rendez-vous Science Grand Format de France 5 avec aujourd'hui un documentaire consacré à Venise. Fanny Boyon réalise l'émission préparée aujourd'hui par Chantal Le Montagnier.
La tête au carré. Le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Les requins, dossier de l'émission dans un instant, ce sera avec vous Éric Clua. Bonjour.
Bonjour Mathieu et bonjour à l'équipe de France Inter.
Est-ce que les requins apprécient de mettre la chair humaine au menu de leur repas en général ?
Alors, apprécient de la mettre, oui, s'ils ont suffisamment de faim et qu'ils ont besoin de se nourrir. Maintenant, on ne peut pas dire qu'ils développent une affinité particulière pour la chair humaine et c'est très important à comprendre et à intégrer.
Là, c'est pas terrible d'ailleurs la chair humaine, il n'y a pas grand-chose.
Il paraît que c'est fade, alors ça tout dépend des gens. Oui. Ça vous inclut pas forcément, évidemment. Oui.
Donc le requin pas spécialement attiré par cette chair.
Absolument pas.
On va parler évidemment des travaux que vous menez à ce sujet, mais bien d'autres encore, avec également les messages des auditeurs qui vont nous rejoindre pour parler requin, donc cet après-midi ensemble, franceinter.fr et le mot-clé l'attaque.
Vous saviez que le gouvernement finance la plus grande expérience de détection de la matière noire ?
Oui, j'ai lu ça quelque part. Ils envoient des équipes de recherche dans des mines de sel abandonnées.
J'y pense, Sheldon. Si on postule pour faire partie d'une de ces équipes, on pourrait être les témoins d'un événement majeur. Non seulement de la physique théorique, mais également de l'astrophysique.
Voilà un extrait de la sitcom Big Bang Theory pour chercher et trouver de la matière noire, en tout cas un vrai casse-tête de la physique moderne et c'est aujourd'hui à la une de la science Axel Villard.
Oui Mathieu, et depuis plus de 20 ans, toutes les expériences imaginées pour détecter les hypothétiques particules de matière noire, les fameux WIMPs, ont échoué. Même le laboratoire géant du Grand Sasso, le plus sensible au monde, enfoui sous 1 kilomètre de roche en Italie, n'a rien donné. Alors les physiciens, toujours déterminés, se mettent à imaginer des expériences de plus en plus originales. Une équipe suédoise propose d'aller voir dans le passé, dans les vieilles roches terrestres, pour trouver des traces d'interaction entre la matière classique et la matière noire. Tout ça, il y a des millions d'années. Et pour détailler ce projet et comprendre pourquoi cette matière invisible le demeure encore et toujours, nous sommes en studio avec David Elbaz. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes astrophysicien au CEA, chef du laboratoire Cosmologie et Évolution des Galaxies. Alors pour commencer, je sais que la question est peut-être un peu piégée, mais que cherchons-nous exactement quand on dit qu'on cherche la matière noire ?
Alors, on connaît la présence de la matière noire de façon indirecte parce que tout bouge trop vite dans l'univers, il y a une attraction beaucoup trop grande, donc on suppose l'existence de matière noire. Et puis comme on ne sait pas très bien de quoi elle est faite, on présuppose certains types de particules, un peu comme celui qui cherche sa clé sous un lampadaire parce que là il y a de la lumière, et la lumière en question c'est nos théories. Alors c'est WIMPs, ça veut dire Weakly Interactive Massive Particles, c'est-à-dire des galaxies qui sont massives, tellement massives qu'on ne les a pas encore vues et qu'elles interagissent très peu. Donc c'est ça qu'on cherche.
Donc en fait on imagine quelque chose et ensuite on le cherche.
Oui.
C'est comme ça que ça se passe. Et là, pour le cas précis de ces paléodétecteurs imaginés par les Suédois, quelle est l'idée ? Comment ça marche ?
Alors l'idée c'est que on appelle ça de la détection directe. Imaginez qu'il y ait un homme invisible dans cette pièce, vous envoyez des balles de tennis, si elle rebondit sur quelque chose, dit-il est là. Mmh. Alors là c'est pareil, les particules de matière noire, au bout d'un moment, elles vont rebondir sur quelque chose, c'est la matière qu'on met sous terre pour pas être affectée par les rayons cosmiques et autres, et puis on a besoin d'un bolide qui se déplace, et ce bolide c'est la Terre.
D'accord.
La Terre, elle se déplace à 220 km par seconde autour du centre de la Voie lactée, dans un espèce de nuage de matière noire. Et donc on attend qu'il y ait des collisions, et puis on essaye de les détecter. Pour l'instant, ça marche pas. Alors ce que cette équipe a proposé, c'est de dire, écoutez, ça fait des millions d'années que ça se passe, ça doit laisser des traces. Prenons des forages pétroliers, Allons chercher une roche là-dedans et regardons la structure cristalline, la disposition des noyaux d'atomes là-dedans. Et s'ils ont été bousculés par des collisions pendant 500 millions d'années avec la matière noire, on devrait en voir la trace.
Donc on ne construit pas de détecteur, on va juste ramasser des roches et on regarde dedans.
Voilà, il n'y a rien à faire. Prendre un microscope électronique, regarder, c'est un petit projet, une petite start-up. Et puis avec ça, on peut révolutionner tout. Sauf que, comme d'habitude, en physique, il y a des bruits.
Aïe.
C'est toutes sortes de bruits. Et même quand on met la radio, il y a du bruit, il y a les voisins, etc. Bah là, c'est pareil. Il y a du bruit qui vient de la radioactivité naturelle qui, elle aussi, bouscule les atomes dans les solides qui, eux-mêmes, d'ailleurs, n'ont pas une structure complètement parfaite. Donc, le débat est ouvert pour savoir s'ils y arriveront. Mais l'idée est intéressante.
Alors, si on rêve un peu et qu'on imagine que ces paléodétecteurs soient un succès, si on trouve ces trous là dans ces structures cristallines, en quoi est-ce qu'on sera avancé? Parce qu'on n'aura toujours pas trouvé la matière noire.
Voilà. Alors, il y a deux questions. La première, c'est: est-ce que la matière noire existe? Parce que tout à l'heure, on a dit, on cherche quelque chose qu'on prévoit. Et puis, si on ne le voit pas, peut-être que c'est simplement parce que c'est autre chose, ou peut-être qu'elle n'existe pas. Et donc, si il voit la trace de la matière noire, et qu'on arrive à savoir que c'est de la matière noire, c'est une avancée remarquable. Parce qu'on ne sait toujours pas si elle existe vraiment. C'est comme les trous noirs. On ne peut pas voir un trou noir, mais on a des évidences qu'ils existent, donc on sait qu'ils existent.
Pourtant, on estime sa quantité aussi. Hein,
la quantité de matière noire est précisément mesurée. Alors, c'est ça qu'on fait le mieux aujourd'hui.
C'est
25%, c'est 6 fois plus. Alors, ça fait, dans le contenu énergétique de l'univers, c'est vrai que c'est environ 25% parce qu'il y a une autre composante qui s'appelle l'énergie noire, mais c'est 6 fois plus que la matière normale.
Ouais.
Donc on est dans une époque intéressante puisque on mesure notre ignorance. Et donc l'ignorance, c'est une forme de connaissance pour nous, c'est une forme fondamentale de connaissance, et grâce à ça, on peut ensuite savoir combien de collisions on attend, etc. Et donc avoir une idée du type de particules qui sont là, pas simplement de savoir si elles existent.
Mais alors, si elle est si importante, pourquoi on la cherche? Parce qu'elle n'interagit pas avec nous, elle est invisible. Donc du coup, qu'est-ce que représente cette quête depuis 80 ans de la matière noire?
Oui, alors on pourrait se demander qu'est-ce qu'on en a à faire de ces particules. Sauf qu'à chaque fois qu'on voit une particule, elle est associée à un champ d'énergie, à une force, à une interaction, à quelque chose. Et donc, la théorie qui va aller avec, pour expliquer cette particule, pourrait révolutionner tout. La théorie d'Einstein est utilisée aujourd'hui pour les GPS, pour plein de choses dont on n'aurait pas imaginé avant leur existence. Et donc, on pense que la théorie qui permettra d'expliquer la matière noire pourrait être la fameuse théorie qui réunirait les deux infinis. L'infiniment grand, l'infiniment petit, la mécanique quantique et la relativité d'Einstein.
Ah oui, c'est le Graal.
Ça.
Là, hein.
C'est le Graal.
C'est le gros truc.
Donc, c'est pourquoi tout le monde se tourne vers la matière noire. Parce que celui qui la verra aura un doigt dans le prix Nobel.
Oui, c'est ça. Plus qu'un doigt, il l'aura. Il l'aura sûr.
Alors, ça veut dire que d'autres équipes sont en train de chercher aussi. Quelles sont les autres idées originales pour les 10-20 années à venir?
Alors, il y a des tas d'idées originales. Par exemple, on a un satellite qui va être lancé en 2022 qui regarde les déformations de l'espace-temps par la masse, comme il y a principalement de la matière noire. Et donc, on peut tracer cette déformation de la lumière des galaxies dans l'univers. Et puis, on voit comment ça évolue au cours du temps. Et grâce à ça, on peut tester quel type de matière noire est là, et peut-être se poser la question de savoir si c'est vraiment de la matière, des particules ou pas. L'autre possibilité, c'est que ce soit des trous noirs, des gros trous noirs comme ceux qui ont fait des ondes gravitationnelles. C'est pas la théorie favorisée, mais vous voyez, on cherche vraiment très loin, parce qu'entre une particule et un énorme trou noir qui fait 30 fois la masse du Soleil, il y a quand même de l'espace.
Alors si jamais on la trouve pas, vraiment pas, est-ce qu'il va falloir se résoudre à revoir les théories de la relativité générale pour de bon?
Oui, c'est ce qui nous pend au nez. C'est ce qui nous pend au nez. En fait, oui, si j'avais à parier même, je dirais que...
On la trouvera jamais.
Oui. Ah. Mais et c'est un pari que je fais maintenant, m'avance.
On note.
Mais ce que cherchent les paléos, là, c'est de la vieille matière noire ou c'est de la matière noire bien fraîche?
Alors, c'est des interactions qui ont été faites par de la matière noire il y a 500 millions d'années, typiquement, et au cours de 500 millions d'années. Mais la matière noire, elle vieillit pas, donc bon, on va dire qu'elle est fraîchement vieille.
Quand même, cette théorie de la relativité générale, elle a été bien confirmée par les ondes gravitationnelles. Donc, quand vous dites qu'il faut la revoir, faut pas la revoir complètement.
Alors, vous avez raison. Ça, c'est vraiment une source de tension majeure aujourd'hui. Toutes les prédictions d'Einstein sont vérifiées avec une précision diabolique. Einstein ne se trompe jamais, même n'étant plus vivant. Et donc les ondes gravitationnelles non seulement ont été détectées, mais elles ont été détectées avec un comportement qui est exactement ce que prévoit la théorie, avec une propagation de la gravité qui est exactement la vitesse de la lumière à 10 puissance moins 15 près. Et j'ai des collègues qui ont les larmes aux yeux, parce qu'ils imaginent des théories magnifiques, et en général un théoricien peut écrire ce qu'il veut, on va jamais pouvoir le vérifier, et là... Avec les ondes gravitationnelles, on peut rejeter ces théories-là les unes derrière les autres. On ne sait plus quoi faire. Effectivement, on est démunis.
En tout cas, on retiendra cette phrase aujourd'hui. L'ignorance est une forme de connaissance. David Elbaz, 13 décembre 2018. Voilà, le micro de la tête au carré. Merci beaucoup à vous d'être venu aujourd'hui. Axel, on se retrouve demain pour la Une de la Science. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, le surpoids qui serait responsable d'un cas de cancer sur 4 dans le monde. Cette estimation nous vient d'un rapport publié dans The Cancer Journal of Clinicians et s'appuie sur un jeu de données concernant l'année 2012. Selon les chercheurs, les choses ne vont pas aller en s'arrangeant car la prévalence de l'excès de masse corporelle est en constante augmentation depuis les années 70. En 2016, 40% des adultes dans le monde étaient en surpoids et 18% des enfants. Il s'appelle Tilacoleo. Il s'agit d'un lion marsupial du Paléocène, un fossile quasiment complet de ce chasseur carnivore qui vivait en Australie il y a 50 millions d'années. Il vient d'être révélé par des chercheurs. Le mammifère aux airs de gros rongeurs pouvait peser jusqu'à 100 kilos et chasser aussi bien au sol que dans les arbres. Pour s'aider dans ses déplacements, il pouvait compter sur une large et puissante queue sans servir de balancier ou bien s'appuyer dessus pour tenir en équilibre sur ses deux pattes, un peu comme le font certains marsupiaux actuels comme les grands kangourous. Et puis encore un mot du Téléthon 2018 en baisse cette année à cause d'une actualité chargée. Les dons ont atteint le week-end dernier 69 millions d'euros contre 90 millions l'année dernière. Sachez en tout cas que le standard téléphonique du Téléthon reste ouvert jusqu'à demain, vendredi, pour vos promesses de dons. Alors n'hésitez pas pour aider la recherche sur les maladies rares. Vous pouvez donc toujours composer le 36 37 ou bien faire vos dons sur téléthon.fr. On parle requin dans un instant. Fight the feeling, c'était Charles Bradley à l'instant.
Cause du décès, attaqué par un requin.
La tête au carré.
Voilà les requins au cœur de notre émission cet après-midi avec vous, Eric Lua. Nous allons en parler puisque vous êtes spécialiste de la question vétérinaire, docteur en biologie marine et directeur d'études à l'école pratique des hautes études au sein du CRIOB. Et les auditeurs nous rejoignent déjà avec beaucoup de questions. Ça fascine toujours autant, hein, les requins.
Ah oui, ça fait toujours... tilt, on va dire.
Ouais.
C'est des animaux qui fascinent et qui sont le sujet de beaucoup de fantasmes aussi. Hein.
Oui, beaucoup de fantasmes, beaucoup de frissons. Donc évidemment, le cinéma, on l'a dit souvent, ne les a pas vraiment aidés. Hein.
Bah, il a joué un rôle, je pense, malheureusement essentiel dans la mauvaise perception qu'une grande partie du public a aujourd'hui de ces animaux, avec des films qui sont des films de pure science-fiction, mais qui sont souvent interprétés presque comme des documentaires.
Absolument. Ouais. Il faut rappeler quand même que le nombre de morts à cause des requins est très très faible par rapport aux moustiques, par exemple.
Hein. Ben, j'oserais dire qu'il est ridicule.
Ouais.
Alors effectivement, l'animal qui tue le plus au monde, c'est le moustique, avec jusqu'à 800 000
personnes chaque année.
Après, il tue indirectement parce qu'il transmet des maladies, mais si on compare avec d'autres animaux qui ont des dents et qui peuvent être agressifs à l'égard de l'homme...
Le chien, par exemple.
Le chien, 25 000 morts par an, l'hippopotame, même qui apparaît comme un animal placide, tue jusqu'à 500 personnes par an, les crocodiles. Et le deuxième derrière le moustique, c'est le serpent, 100 000 morts par an dans le monde.
25 000 pour les chiens, vous dites, c'est énorme, ça.
Ah, c'est énorme, oui. Ouais. 25 000. Ouais.
Racontez-nous d'abord, Éric Luat, comment votre route a croisé celle des requins, comment ça s'est passé?
Ah, je dirais que j'ai un peu de mal à expliquer parce que c'est passionnel et depuis très jeune. Alors, je pense que c'est aussi lié au fait que mon père m'a inculqué l'amour de la mer, en fait. Il était plongeur très tôt, même avant la période Cousteau. Il s'est pris d'amour pour la mer alors qu'il était né, comme moi, dans le Gers, en plein milieu du sud-ouest. Et ensuite, donc, il m'a appris à plonger, donc en apnée, en bouteille. Et forcément, à un moment donné, je suis tombé au contact de ces animaux.
À quel âge vous êtes tombé nez à nez avec votre premier requin, finalement?
C'était relativement tardif, en fait. C'était dans la Caraïbe et j'avais déjà 20 ans, je dirais. Mais comme tout le monde sous l'eau, j'ai eu peur la première fois que je l'ai vu. Avant, évidemment, de me ressaisir au bout de 3-4 secondes, à me dire, mais non, finalement, tu sais ce que c'est. Donc, il faut pas... Mais j'ai moi aussi été victime, bien que mon père m'ait empêché, et hommage lui soit rendu à ce titre-là, de voir les dents de la mer. À l'époque, je me souviens, j'étais extrêmement frustré parce que dans la cour de l'école, tous mes petits camarades, évidemment, y allaient de leurs commentaires, de leurs frissons, et je passais évidemment petit peu pour un imbécile, parce que moi je l'avais pas vu, et j'avais dit à mon père, non, mais tu comprends, papa, il faut quand même que je le voie. Il m'avait dit, alors, tu ne vas surtout pas y aller. Et lui avait pressenti, parce qu'à l'époque j'avais une dizaine d'années en fait, avait pressenti que le voir m'handicaperait probablement pour la carrière que je fais en ce moment.
Donc il a bien fait finalement d'une certaine manière.
Tout à fait.
On va vous offrir un extrait évidemment des Dents de la Mer, on ne pouvait pas s'en empêcher dans cette émission pour retracer la vie des requins.
Tous les spécialistes vous diront que c'est un tueur, un mangeur d'hommes.
Voilà la situation. Il semblerait qu'un grand requin blanc se soit approprié les eaux territoriales d'Amity. Il va continuer à s'y alimenter tant que les eaux seront pourvues de nourriture.
On n'a aucun moyen de limiter les dégâts. Écoutez, il y a déjà eu 3 incidents, 2 victimes en l'espace d'une semaine et ça n'est qu'un début.
Tout ce qu'on appelle squale est attiré irrésistiblement par le bruit et les turbulences aquatiques produites par un humain qui nage. C'est une donnée naturelle.
Ouvrir les plages pour la fête nationale, ça équivaut à leur sonner la cloche pour le déjeuner.
Écoutez, Monsieur Vaughan, j'ai prélevé une dent. Une dent de la taille d'un verre à whisky, dans la coque d'un bateau. Eh bien, c'était une dent de grand blanc.
Et comment dites-vous que s'appelle ce requin?
C'est un Carcharodon carcharias, le grand blanc. Ce que nous avons à affronter, c'est une machine à dévorer. L'engin parfait. Un authentique miracle de l'évolution. Cette machine nage, ingurgite et fabrique du requin. C'est sa fonction.
Extraordinaire musique, hein. On est tout de suite dans l'ambiance. Hein.
Ben, elle est terrible, la musique est d'une efficacité, je dirais, incroyable. Et alors ce qui est paradoxal dans ce film, ce qui est aussi très efficace, c'est que finalement on ne voit pas le requin. Alors je ne sais pas si les gens le savent, mais c'est un détail quelque part intéressant, c'est que Spielberg en fait était assez déçu par les effets spéciaux lors de ce film-là. Et il s'est dit finalement, moins je le montre, mieux je me porte.
Le subjectif
marche
mieux.
Et il a atteint encore plus l'objectif qui était de faire peur. Sauf qu'aujourd'hui, des gens qui voient le bleu et qui n'y voient rien dans le bleu, ben, ne peuvent pas s'empêcher d'y voir le requin.
Absolument. Alors, il faut dire que c'est adapté d'un livre qui lui-même s'inspire d'une histoire vraie quand même, parce que les attaques de requins qui sont passées au début du XXe siècle aux États-Unis sont à l'origine du livre sur les
dents de la mer. Tout à fait, le livre de Peter Benchley, effectivement, qui repose sur des histoires vraies. Bon, et lui a brodé un petit peu là-dessus, évidemment, puisque ça avait quand même créé aussi beaucoup d'émoi à cette époque-là.
Il y avait une série d'attaques, sur un temps très court.
Il y avait une série d'attaques, comme je dirais, depuis, il y en a eu quasiment aucune, même si, et on va peut-être le mentionner plus tard, un requin qui a attaqué une première fois a des chances de réattaquer l'homme.
Ouais. Alors justement, les Australiens connaissent une série d'attaques. Là, en ce moment, il y en a encore une la semaine dernière, un surfeur de 36 ans qui a été grièvement blessé à une jambe, et ça s'inscrit justement dans une série qui dure depuis maintenant plusieurs mois, et c'est vrai qu'en Australie, on essaie de mettre au point des systèmes efficace pour lutter contre ces requins.
Ah ben, ils investissent, les Australiens investissent des millions de dollars dans des technologies très élaborées, hein, qui utilisent par exemple les satellites, hein, pour essayer de repérer les requins et tout. Mais il faut quand même avouer que ça reste globalement assez peu efficace, hein, pour contrer les attaques, qui quand même, il faut le dire par ailleurs, sont très peu nombreuses, mais continuent à exister.
Ouais. Alors, on va évidemment évoquer ces individus particuliers, hein, qui s'attaquent aux hommes, parce que c'est loin d'être le cas de tous les requins. D'abord, il y a des questions très générales des auditeurs qui sont intéressantes pour commencer cette discussion. Pourquoi justement les requins passionnent autant les hommes, demande Gilles, et est-ce que ça a toujours été le cas?
Non, je pense pas que ça a été le cas. Les requins ont toujours existé, et il y a, par le passé, 17e, 18e siècle, il est certain que c'était pas une bonne idée que de faire partie d'un naufrage en pleine mer, parce que la densité de requins était très très importante. Ouais. Et donc, les requins se sont souvent nourris, hein, sur les naufragés. Et donc, ça les a affublés, évidemment, d'une très mauvaise réputation. Mais je pense qu'à cette époque-là, les requins étaient pas perçus de façon pire que les loups, par exemple, qui sont des prédateurs aussi terrestres et qui ont posé des problèmes à l'homme. La spécificité du requin, c'est que au-delà de l'animal, il y a son statut de prédateur marin. Et la mer, en fait, on ne la connaît pas. Et l'homme, enfin, moi, je me l'explique comme ça, l'homme a peur de ce qu'il ne connaît pas. Et avec le requin, ben, on a les deux. On a le prédateur qui fait appel à notre passé, là aussi, d'homme qui... Nous avons été des proies à une certaine époque de notre développement. À un moment donné, quand on allait de la caverne à la rivière, ben on pouvait se faire croquer par un tigre à dents de sabre, par un ours. Et je pense qu'on a gardé cette peur viscérale, hein, d'être une proie. Et on aime absolument pas ça. Mais en plus de l'être par rapport à un prédateur X, il y a aussi cette peur, à mon avis, du milieu de la mer.
Paul demande justement si le requin est un prédateur ou un super prédateur. Scientifiquement, on le qualifie comment?
Ouais, alors j'allais dire les deux, mais pourquoi? Parce qu'il y a à peu près 500 requins, hein, espèces de requins différentes, et ça va du plus petit au plus gros. Alors le plus gros, c'est le requin baleine, qui paradoxalement se nourrit sur du plancton. À l'autre extrême, on a le requin en porte-pièce, hein, qui est le squalelet féroce, qui fait à peine quelques dizaines de centimètres, 20 centimètres.
Ah oui.
Et où je veux en venir, c'est que lorsqu'ils sont gros et carnassiers, comme le requin blanc, le requin tigre, ils se nourrissent, effectivement, ils sont en haut de la chaîne alimentaire, ont très peu eux-mêmes de prédateurs. À part probablement l'orque, hein, les polars. Et donc, on peut les qualifier de prédateurs apicaux. En revanche, vous avez des requins gris, des requins pointe noire qui font, en termes de longueur, de l'ordre de 1 mètre, 1,50 m. Et ceux-là, ce sont ce qu'on appelle des mésoprédateurs. C'est-à-dire qu'ils sont, beaucoup plus bas dans la chaîne alimentaire. Ouais. Et ils ont le même statut qu'un mérou, par exemple.
Ouais. Alors, ces requins géants, justement, requins pèlerins ou requins baleines, ils sont absolument fascinants. Et on peut les croiser dans les eaux bretonnes, par exemple, ou pas?
Ah, tout à fait. Ouais, j'allais dire, heureusement, alors le pèlerin, oui, parce qu'il affectionne les eaux froides. Hein, le requin baleine, qui est encore plus grand, lui, est plus difficile à voir. En tout cas, on ne le verra que dans des eaux beaucoup plus chaudes, hein, des eaux tropicales.
Ouais, ouais. On a des photos assez fréquentes, justement, de ces poissons dans nos eaux françaises, par exemple, pour le pèlerin.
Oui, tout à fait.
Ouais,
ouais,
on arrive
fait,
à.
Oui,
il
ouais, y a souvent. Alors aujourd'hui, avec la technologie aidant, hein, avec les téléphones, beaucoup de pêcheurs ont maintenant des téléphones. Et je suis souvent sollicité pour identifier donc ces requins sur des films, hein, fait avec les téléphones portables.
On a une idée de leur densité de population justement ou pas, ces requins pèlerins, hein,
pour... Non, alors je suis pas un spécialiste du requin pèlerin, mais ce qu'on peut dire c'est que les requins en général ont aujourd'hui un problème de densité. Hein, on y reviendra sans doute.
En Méditerranée, il y a un vrai problème de conservation. Très clair. Ouais, en Méditerranée en particulier.
Alors la Méditerranée a un statut très particulier. Je dirais que c'est une catastrophe dont on va, j'espère, sortir. Mais il y a un papier qui est sorti en 2008 là, et qui faisait état de chiffres absolument alarmants, puisque si on s'attache au statut des grands requins, hein, je pense aux blancs, aux macos, aux requins renards et autres, 98%, je dis bien 98% de ces animaux auraient disparu des eaux méditerranéennes.
Incroyable. Donc ça veut dire que quand on nage au large de la Corse, par exemple, on est susceptible de tomber sur un requin blanc?
Tout à fait. La Corse, les baleares que je connais un petit peu mieux puisque j'y travaille maintenant depuis 2 ans, dans les années 70, il y avait ces pièges passifs à thon, hein, qui sont des sortes de labyrinthes dans lesquels les thons s'enfermaient. Et évidemment, les requins, attirés probablement par l'odeur et par la présence de ces thons, y rentraient. Et aux Baleares, et en Corse aussi, les gens, il y a des anecdotes, capturaient involontairement 1 à 2 requins par an dans les années 70. Alors évidemment, tout ça a bien baissé avec la disparition de ces animaux qui ont été par ailleurs surpêchés.
Éric Lua, vous êtes notre invité cet après-midi dans La Tête au Carré. On se retrouve dans un instant avec les messages des auditeurs.
J'étais dans le bouillon, serein, tu vois, attendant la déferlante, quoi. Quand un squale de 10 mètres arrive devant moi, t'imagines 10 mètres? Il me regarde et me fait... Poum, 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 poum. Je dis quoi? Bum, 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 on se connaît?
Benz, c'était la voix de Benjamin Biolay.
La tête au carré. Sur France Inter.
Les pompiers emmènent le corps d'Alexandre Nosac. Sur la plage, sa planche de bodyboard reste sur le sable à quelques mètres du rivage. Ce matin, ce jeune de 26 ans surfait avec ses amis lorsqu'un requin l'a attaqué.
Il y a quand même une bonne partie de la jambe et du bassin qui a été mangée, donc fatalement, il s'est vidé de son sang.
Alexandre Nosac connaissait pourtant le danger. C'était un surfeur confirmé, il était même employé jusqu'à l'année dernière dans un programme pour signaler les requins aux baigneurs. Car depuis 2011, les attaques sur l'île de la Réunion se multiplient, principalement sur la côte ouest. À l'est, elles sont beaucoup plus rares, c'est la première depuis 5 ans à Saint-André. Cette côte est en effet moins fréquentée, plus sauvage. Alexandre Nosac et ses amis étaient venus de l'ouest y chercher les meilleures vagues. Depuis 2011, c'est la 20e attaque de requins sur l'île de la Réunion, la 8e mortelle.
Voilà, chiffre, attention, qui date de 2017, hein, puisque ce reportage avait été diffusé dans le 19-20 de France 3 en février 2017. Éric Lua, vous êtes notre invité pour parler des requins et de leurs attaques, justement. On a pas mal de messages d'auditeurs qui nous écrivent précisément de la Réunion, comme Gérard qui nous dit, voilà, des attaques, il y en a dans le monde entier. Pourquoi est-ce qu'on a autant d'attaques sur l'île de la Réunion, des attaques qui apparemment n'existaient pas avant? Comment on explique ça, alors?
Alors, je pense qu'il y a justement une petite erreur qu'il faut modifier, c'est qu'il y a toujours eu des attaques. Il y a toujours eu des attaques, y compris à La Réunion. Lorsqu'on regarde les chiffres, il y a toujours eu des attaques. Alors ensuite, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu une recrudescence, effectivement, depuis 2011, à La Réunion, des attaques de requins. ce qui est important à comprendre sur les attaques, c'est qu'il n'y a pas forcément de changement dans le comportement des requins comme les gens aimeraient le penser. C'est-à-dire qu'on cherche toujours, l'homme essaie d'expliquer toujours par des changements, justement, des différences de comportement. Ces différences-là, et on y reviendra peut-être plus précisément, qui seraient liées à des facteurs, par exemple, environnementaux, et on entend tout et son contraire, hein, les requins n'ont plus rien à manger, l'eau devient plus chaude, ou ce genre de choses, à mon sens, jouent un rôle probablement, mais très indirect et de second plan. La seule chose qui a été prouvée, et la Réunion, je pense, n'échappe pas à cette règle-là, c'est que la probabilité qu'un requin, à un moment donné, mord de l'homme pour se nourrir dessus, elle reste très faible.
Ouais.
En revanche, d'un côté, les requins, la densité des requins n'a pas forcément beaucoup évolué, elle a été même plutôt à tendance à baisser.
Ouais.
En revanche, la fréquentation de la mer, elle, a décuplé. C'est-à-dire,
donc,
en gros, c'est l'homme
humaine.
Ouais. Évidemment, c'est l'homme qui va vers le requin. Ça a été très bien montré en Australie, ça a été montré aussi avec un autre papier un petit peu plus récent, là, en 2015, aux États-Unis. Pour faire simple, c'est des masses considérable d'hommes qui vont à la rencontre du requin. Donc, si je me fais bien comprendre, la probabilité reste très faible, sauf que, en termes de probabilité, vous connaissez le principe du tirage, c'est-à-dire que dès lors qu'on va augmenter, l'interaction d'un homme avec un requin, à chaque fois, on va tirer, si vous voulez. Et ça va faire qu'à un moment donné, eh ben, il va y avoir cette morsure d'un requin sur l'homme. Si je reviens rapidement sur l'exemple des États-Unis, un papier très intéressant est sorti, et il a montré quoi? Qu'entre 1950 et 2013, les attaques avaient légèrement augmenté, un petit peu comme à La Réunion, on est passé en gros de une attaque à deux attaques par an. Alors, évidemment, c'est du 100%, mais ça reste malgré tout de tout petits chiffres.
Ouais, hein,
on est bien d'accord. Donc, le nombre d'attaques avait légèrement augmenté, le nombre de requins, c'était dans le plus ou moins stabilisé, voire avait légèrement augmenté, puisque les requins, comme le requin blanc par exemple, je parle des États-Unis, sont protégés, et donc on voit les populations qui augmentent régulièrement. Mais ce qui a changé,
c'est la densité de population.
Exactement, qui elle a décuplé. Donc on se retrouve dans cette idée où on affecte cette probabilité basse à un nombre de gens important. Et les Américains concluent leur papier avec une donnée à laquelle les gens devraient réfléchir. Alors je sais que c'est pas facile d'être rationnel vis-à-vis des requins, mais il faut faire cet effort-là. Ils ont montré qu'entre 1950 et 2013, on avait peut-être deux fois plus d'attaques, c'est-à-dire pas une, mais deux par an, mais que le risque pour vous, individuel, d'être mordu par un requin en allant à la mer, il avait baissé de 91%. Vous voyez où je veux en venir? C'est-à-dire qu'en gros, il y a certes légèrement plus d'attaques, mais vous, le fait, et c'est ça quand même ça qui nous intéresse quand on met un pied dans l'eau ou une palme dans l'eau, c'est de ne pas nous faire, je dirais,
croquer,
hein, pour le dire de cette façon-là. Ben, ce risque-là, il a significativement baissé sur les dernières décennies.
Alors Mathieu, qui lui aussi nous écrit de La Réunion et qu'on salue chaleureusement, nous dit à l'approche de la saison estivale justement, il aimerait savoir où en sont les autorités quant aux mesures prises face au nombre croissant d'attaques enregistrées ces dernières années. Le combat entre pêcheurs, surfeurs et associations de la mer est-il toujours aussi virulent dans les localités similaires?
Alors, je tiens à dire que je ne réside pas à La Réunion et je n'y travaille pas non plus. Donc,
vous, c'est plus à Polynésie d'ailleurs. Hein. Hein. C'est plus à Polynésie d'ailleurs, en l'occurrence. Hein.
Ah, c'est pour la Polynésie?
Non. Vous habitez plus en Polynésie qu'à La Réunion.
Voilà. Oui, alors, évidemment, je m'intéresse à la situation à travers le monde et j'ai évidemment des informations sur La Réunion, mais je tiens quand même à clarifier que je ne me considère pas comme le spécialiste de la situation à La Réunion, notamment par rapport aux chiffres, voire même à une situation, ne serait-ce que juridique. Ce que je comprends, moi, de la Réunion, c'est que malheureusement, à mon sens, et malgré de gros efforts, y compris des efforts scientifiques, la situation semble un petit peu, en panne. Hein. C'est-à-dire que on a, à mon sens, pas résolu le problème des attaques. Et pour l'instant, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de lumière au bout du tunnel.
Mais le problème, c'est quoi? C'est le tourisme, tout simplement, ou pas? Pour dire les choses très rapidement.
Alors, moi, si vous voulez, bon, je pense que c'est votre question quelque part. Qu'est-ce qui se passe à La Réunion? Moi, je pense qu'à La Réunion, il se passe qu'à partir de 2011, on a eu, non pas un problème d'ailleurs avec les requins, non pas un problème avec les requins bulldogs, on a probablement eu un problème avec un requin. Un individu qui, à un moment donné, va avoir un comportement, alors on peut le qualifier de déviant, même si c'est une vision un peu anthropocentrique des choses, parce qu'on n'aime pas être nous considérés comme des proies. Mais le requin, lui, n'a pas d'état d'âme, je dirais. Il ne faut pas faire d'anthropomorphisme, c'est-à-dire il n'en veut pas particulièrement à l'homme. Simplement, on peut avoir, au sein des populations de requins, des individus de façon très très marginale. Ces individus, ils ont la particularité d'être, par exemple, beaucoup plus audacieux aussi que les autres. Hein. C'est-à-dire qu'en éthologie, en comportement animal, on a ce continuum entre la timidité, si vous voulez, et l'audace. Et donc, on va prendre le cas de ces individus audacieux qui, à un moment donné, vont se trouver dans une situation particulière. De la même façon que leurs congénères, ils vont se retrouver au contact de ces proies qu'ils ne connaissent pas, mais qui restent quelque part des proies potentielles, qui sont l'homme. Et il y en a un parmi une grande quantité qui, lui, va essayer, à mon avis.
Donc, voilà, le déviant, le sale gosse, quoi,
voilà, on va dire, on peut l'appeler le déviant pour simplifier, ou le sale gosse. Lui, va essayer. Il va essayer. Et le problème, c'est qu'une fois qu'il a essayé, ben, il va cocher. Il va dire, OK, ben, ça, finalement, moi, j'ai goûté, ça s'est plutôt bien passé, j'ai pas pris de coup de coude dans l'œil. Donc, ben, la prochaine fois, je vais recommencer. Ouais,
donc, ça, c'est votre théorie, finalement, Eric. Alors, ben, oui, là, c'est de dire qu'au sein d'une population donnée, dans une géographie précise, il y a probablement, dans des groupes de requins, un seul individu qui, à lui seul, pourrait, depuis 2011, comme à La Réunion, être le responsable des attaques. Mais comment est-ce qu'on peut être sûr que c'est le même individu?
Alors, je vais y venir, mais ce que j'aimerais dire, c'est que cette théorie-là, donc, est née dans mon esprit, suite à mes travaux donc en Nouvelle-Calédonie, à la fin des années 2000, où il y avait à peu près une attaque, une morsure mortelle tous les deux ans. Il faut quand même dire que ce qui était pour l'instant une théorie, certains même diront ou disaient une élucubration, elle est validée aujourd'hui scientifiquement et plein d'éléments viennent la conforter. Ouais. Pour faire simple, si vous voulez, je prends moi souvent l'exemple des mammifères marins, dans un but pédagogique. J'ai essayé de rentrer dans la tête d'un requin blanc, finalement, et de me dire, voilà pourquoi cet animal, à un moment donné, va mordre un humain alors que la grande majorité de ses congénères ne le font pas. Ce qui se passe chez l'orque, donc, les polars, qui est un super prédateur, vous le savez, qui peut même être plus grand et plus gros que le requin, jusqu'à 9 mètres. Mais enfin, c'est, pour faire simple, comme le requin blanc, c'est une grosse bébête avec des dents qui finalement vont à terme manger un peu la même chose. Mmh. Ben, le mammifère marin, lui, lorsqu'il naît, déjà, il va téter le lait de sa mère. Il va téter le lait de sa mère et une fois qu'il est sevré, il y a la mère et la tante qui vont dire « Regarde mon petit, c'est ça qui se mange et on va te montrer comment on l'attrape. » Et le résultat de ça, c'est quoi ? Ben, c'est que en milieu naturel, alors je dis naturel, c'est-à-dire je mets à part les aquaria dans lequel milieu confiné, il a pu y avoir des problèmes entre les orques et les hommes. Mais en milieu naturel, on n'a jamais eu de morsure d'orque sur l'homme. Le requin blanc, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Lorsqu'il naît avec ses 4 ou 5 petits frères et sœurs, la première chose qu'il fait, c'est se sauver. C'est-à-dire il se sauve, il s'éloigne le plus vite possible de maman et de papa pour pas se faire manger.
Oui, exactement. C'est le cannibalisme.
Et ça, on le sait pas.
Ouais.
Enfin, souvent, les gens l'ignorent. Il y a énormément de cannibalisme chez les requins.
Même intra-utérin.
Tout à fait. C'est-à-dire que les premiers-nés, ils vont commencer à se nourrir sur les œufs et ils vont manger les petits frères et les petites sœurs. Hein, c'est une sacrée vie, je dirais, celle des requins. Ça commence dans l'ambiance, comme dirait l'autre. Donc, ce requin, qui, à sa naissance, fait 1m50, ben, il va falloir qu'il arrive à faire les mêmes choses que l'orque, sauf qu'on lui a rien appris. Et je pense que ce phénomène-là, il explique quelque part, il devrait nous faire accepter qu'il y a une infime minorité d'animaux qui, à un moment donné, si vous me permettez le terme, dérapent un petit peu. C'est-à-dire que vont en fonction de leur caractère aussi. Et ça, c'est important. Hein, la notion d'individualité, en gros, il faut comprendre aussi que, et ça a échappé à beaucoup de chercheurs, je pense, jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a rien de plus différent d'un requin blanc qu'un autre requin blanc. C'est comme l'homme, finalement. Il y en a des
sympas. On parlera de la personnalité,
voilà,
tout à l'heure.
On parlera des personnalités.
Il y a des études en éthologie qui sont passionnantes là-dessus.
Donc, juste pour terminer cette histoire, qui j'espère vous paraît convaincante, mon requin blanc, jusqu'à 3 mètres, il va manger des sardines. À un moment donné, il va se dire, bon, mais les sardines, c'est beaucoup d'efforts et finalement, c'est pas beaucoup de protéines. Hein. Et donc, il faut que j'essaye autre chose. Alors, tortue, dugong, baleineau, et pourquoi pas, tiens, ce truc qui glisse là sur une planche dans les vagues. Voilà, il y en a un parmi 100 qui va dire, bah, écoutez, ça, ce truc-là, je vais l'essayer. Voilà. Et bah, si ça marche, tant pis pour le surfeur et tant mieux pour le requin.
Alors, il y a des questions qui me viennent et puis celles des auditeurs. Il y a Patrice, par exemple, qui vous dit, est-ce qu'il n'est pas inadmissible que l'on songe à détruire systématiquement tout requin à la suite de morsures sur des êtres humains ? Est-ce que ça n'est pas aux individus de s'adapter à l'environnement de ces animaux? On est à peu près d'accord là-dessus, non?
Oui, la remarque, elle est légitime et je dirais qu'elle est centrale. C'est-à-dire qu'avant même de s'intéresser aux solutions, je pense que l'homme doit respecter un petit peu plus la nature, doit sortir de cette vision, je dirais presque prométhéenne, c'est-à-dire que la nature est à sa merci et à son service. L'exemple que je prends, c'est l'alpiniste. L'alpiniste qui grimpe la montagne, si vous voulez. Il sait qu'il prend le risque de tomber. Bon, mais s'il tombe, on va pas couper la montagne. Et quand on est surfeur, moi, je dit, avant tout, le surfeur doit accepter que dans le milieu où il va évoluer, ben, il y a des risques.
On se retrouve dans un instant, suite de notre discussion autour des requins. Eric Clua.
Je le capturerai, votre bestiau, moi, mais ce ne sera pas du tout lui, parce que c'est un filou. Sortir un requin, c'est pas taquiner la plaie dans les temps ou la perchette. Le requin, il avale tout ce qu'il voit. Un coup de dent, un coup d'attendrisseur, et ça descend.
Regarde ces apparts qui s'illuminent, combien de ces familles se font du mal. Regarde le petit con du square, il repousse le plus possible la fin du match. C'était au-delà de mes limites, les cris de mes parents et le son du casque. repêchés par la musique. Le modèle familial au fond du lac. Est-ce que nos mères ont le salaire qu'elles méritent? Est-ce qu'on est les gosses qu'elles rêvaient d'avoir? Quelle vie de devoir laver les vitres, de ramener du linge neuf au parloir. Très tôt elle côtoyait les flics, sur toi et ton frère elle a élevé la voix. Plein de fois elle nous a vu rentrer Yves, t'étais trop bourré, tu l'appelais papa. Ma mère c'est la même et je l'ai trop fait saigner. Trop peu aidé, j'étais jamais là. Je préférais la cité, les microbes de la favela. Tester ce que j'avais dans le ventre, avec des mecs qui avaient plus rien à perdre. Certes je n'ai pas de leur monde, mais qu'est-ce que j'aurais fait pour un salaire? Y'a tout qui se mélange dans ma tête et mon corps. L'amour, la haine, mes raisons et mes torts. Mes joies et mes peines. Fini l'époque où j'étais plus jeune et je courais dehors. J'étais dans le froid sans savoir où je dormirais le soir. Des rêves plein la tête, je pensais contrôler le monde et l'homme dans mon miroir. J'étais dans le froid sans savoir où je dormirais le soir. À 19 ans, je pensais contrôler le monde et l'homme dans mon miroir. J'étais dans le froid sans savoir où je dormirais le soir. J'étais dans le froid sans savoir. Des rêves plein la tête, je pensais contrôler le monde et l'homme dans mon miroir. Qu'est-ce qu'on va faire de nos sacs manqués? Eh les gars, je suis désolé pour toutes les fois où je me suis absenté. Ouais c'est ça, j'ai pensé à vous mais j'ai pas rappelé. M'en voulais pas, entre le bien et le mal je me balançais. Et en dessous y'a le vide, le tribunal. On sait bien que nos valeurs sont discutables. J'ai vite lâché les cours, les diplômes c'était pas pour moi. Les études c'était pas pour moi et je serai jamais leur allié comme Saruman. Je préférais le rap et découvrir l'amour. Je voulais New York, c'est Plégonde et ses tours. J'ai eu le TGV et les allers-retours. Parents divorcés, du sang sur mon parcours. Y'a tout qui se mélange dans ma tête et mon corps. L'amour, la haine, mes raisons et mes torts. Mes joies et mes peines. Fini l'époque où j'étais plus jeune et je courais dehors. J'étais dans le froid sans savoir où je dormirais le soir. Des rêves plein la tête, je pensais contrôler le monde et l'homme dans mon miroir. J'étais dans le froid sans savoir où je dormirais le soir. À 19 ans, je pensais contrôler le monde et l'homme dans mon miroir. J'étais dans le froid sans savoir où je dormirais le soir. J'étais dans le froid sans savoir. Des rêves plein la tête, je pensais contrôler le monde et l'homme dans mon miroir. J'étais dans le froid sans savoir où je dormirais le soir. J'étais dans le froid sans savoir. Des rêves plein la tête, je pensais contrôler le monde et l'homme dans mon miroir.
Miroir, c'était Giorgio.
La tête au carré.
Salut. Oui, je sais, je sais. Vous vous dites, mamma mia, un requin. Alors, qu'est-ce que vous diriez si je vous emmenais à une soirée que j'organise avec des amis à moi?
Quoi? Une fête?
Jumi l'enclume. Enfin, te voilà, Bruce. On a des invités. J'ai pas trop de temps. Bien, en ma qualité de président, je déclare la séance ouverte. Prononçons d'abord le serment. Je suis un gentil requin, pas une machine à tuer. Si je veux arriver à changer cette image, je dois d'abord me changer moi-même. Les poissons sont nos amis, on n'y touche plus. Bon, c'est moi qui commence. Bonjour. Je m'appelle Bruce.
Bonjour, Bruce.
J'ai pas touché à un poisson depuis 3 semaines. Sur les dents de ma mère, qu'on fasse une soupe de mes ailerons, si je m'en...
Voilà, quasiment les alcooliques anonymes avec les requins dans le monde de Nemo. Éric Lua pour parler donc de ces poissons cet après-midi sur France Inter avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr et le mot-clé l'attaque pour vous demander d'abord, comme le fait Théodore, s'il y a plus de requins agressifs que d'autres. Est-ce qu'il y a certaines races justement où on rencontre beaucoup plus les problèmes d'agressivité?
Ce qu'il faut savoir, c'est que concernant ce qui évidemment passionne quelque part le grand public, c'est-à-dire les attaques à but alimentaire sur l'homme. Il y a trois espèces, donc il y a le requin blanc, le requin tigre et le requin bulldog qui, à eux seuls, capitalisent plus de 80% des morsures mortelles sur l'homme. Donc oui, effectivement, parmi les 400 ou 500 espèces de requins existantes, il y en a effectivement très peu finalement qui posent problème à l'homme.
Alors comment on répond aujourd'hui justement aux attaques, en particulier avec des campagnes de pêche aveugles? Vous nous expliquez le principe, hein?
Écoutez, le principe, il est simple. C'est-à-dire qu'après une morsure mortelle, le réflexe qui a encore lieu et qui... Mmh. Ce qui, à moi, me semble inadmissible aujourd'hui, que ce soit à La Réunion ou au Queensland, on fait ce qu'on appelle des campagnes de pêche aveugles. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ça? C'est-à-dire qu'en gros, on va pêcher du requin, mais de façon sans discrimination aucune. Ce qui se cache derrière ça, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse, hein, en traduisant ça scientifiquement, densité dépendante. C'est-à-dire qu'on part du principe que chaque requin a une probabilité non nulle de mordre ou d'attaquer l'homme. Donc, évidemment, si on fait baisser le nombre de requins, on fait baisser ce risque-là. Or, ça ne marche pas. Ça ouais. ne marche pas comme ça. On a même des preuves. Et à Hawaï, dans les années 70, ils ont fait ça. Il y avait paradoxalement plus d'attaques. En l'occurrence, ils avaient une ou deux attaques mortelles par an sur les surfeurs. Il y avait plus d'attaques quand ils ont pêché. En 14 ans, à Hawaï, si vous voulez, ils ont pêché plus de quasiment 5000 requins et dont plus de 500 tigres. Et c'était les tigres qui justement posaient problème. Bref, on sait que ça ne marche pas. Et si vous me permettez une image de la situation, imaginez un village avec un serial killer qui tue quelqu'un tous les 6 mois. La solution que vous apportez, c'est de monter dans le clocher avec un fusil à lunettes et vous tirez sur des gens au hasard dans la rue et vous dites voilà, on a la situation sous contrôle. Désolé du parallèle, mais on en est là aujourd'hui.
Alors, qu'est-ce que vous préconisez, Jou? Parce que justement, on expliquait votre théorie tout à l'heure, c'était de dire qu'au sein des populations, il y avait probablement un individu très marginal, déviant, qui était à l'origine des attaques. Donc, le but, ce serait de l'identifier pour pouvoir justement, là, le tuer, le cas échéant.
Tout à fait.
Alors, comment on fait pour le localiser?
Alors jusqu'à récemment, je dirais, c'était quelque chose de très difficile à faire. Aujourd'hui, on a des outils, en particulier des outils génétiques, qui nous permettent ça. C'est-à-dire, on a ce qu'on appelle le fingerprinting, qui non seulement va, le fingerprinting, c'est lorsqu'on connaît, si vous voulez, déjà par d'autres analyses génétiques éventuellement l'espèce du requin, va nous permettre au sein d'une même espèce de différencier Riri, Fifi, de Loulou. Donc moi, ce que je préconise, c'est relativement simple, pas forcément facile à mettre en œuvre, mais c'est faisable. C'est d'organiser une base de données génétique individuelle, si je prends l'exemple de La Réunion, je dirais ficher quelque part génétiquement mes requins. Alors pour faire ça, il faut aller sous l'eau, il faut probablement faire du feeding, c'est-à-dire du nourrissage artificiel, parce que les requins, on ne les voit pas. Il faut les faire venir, on les photographie, on les mesure et surtout on les biopsie, c'est-à-dire on prend un morceau d'ADN. Et donc là, on fait du fingerprinting et donc j'arrive à différencier Riri, Fifi de Loulou. Une fois que j'ai fait ça, je ne le souhaite pas, mais si il y a par ailleurs
une attaque,
une morsure ou même sur un surf quelque part, là je vais faire quelque chose qui me semble moi incontournable avec la technologie qu'on a aujourd'hui, c'est de chercher l'ADN du requin qui a mordu.
Mais on peut prélever cet ADN sur la planche du surfeur, par exemple ?
Évidemment, sur la planche du surfeur ou sur le surfeur aussi. Et on va faire le même type d'analyse de fingerprinting et on va voir si c'est Riri, Fifi ou Lou, à condition qu'il soit évidemment fiché, qui est le responsable. Et donc là, bien que moi j'œuvre pour la conservation des requins, moi le premier, à partir du moment où j'ai la conviction, la démonstration claire que c'est Riri le responsable, la fois d'après où il se présente à la distribution de nourriture, je le retire chirurgicalement du milieu.
Éric Lua, ça pour l'instant c'est de la théorie, c'est du papier.
C'est du papier, sauf qu'on travaille actuellement sur la faisabilité technique, sur notre capacité.
Où est-ce que vous pourriez mener cette première expérience alors ?
Écoutez, actuellement, la situation est un peu compliquée à La Réunion. Je travaille à Hawaï avec un collègue américain qui s'appelle Carl Meyer. Et on vient de prouver récemment qu'on arrivait à récupérer suffisamment d'ADN sur une planche de surf pour justement mener ces analyses.
Vincent demande, comment explique-t-on qu'à Tahiti, en Polynésie française, là où vous travaillez, une île entourée de requins dont les pélagiques sont bien présents, il y a zéro attaque contre des surfeurs ou autres ?
Ah, c'est une question, je dirais, intéressante et difficile. Alors, ce qui joue beaucoup à Tahiti, c'est que sur le trio que je qualifierais d'infernal, que j'ai écrit tout à l'heure, le blanc, le tigre et le bulldog, il n'y a en Polynésie que le requin-tigre. Ouais. D'accord ? Donc déjà, ça sort beaucoup de possibilités d'avoir des problèmes avec les deux autres espèces. Mais la question, et pour être honnête, en allant plus loin, c'est que cette espèce tigre, elle existe aussi à Hawaï. Or, à Hawaï, le tigre, si vous voulez, attaque des surfeurs. Alors, pourquoi la même espèce attaque des surfeurs à Hawaï et pas en Polynésie ? Alors, actuellement, je suis en train de regarder les chiffres. Il y a déjà une réponse à se poser, c'est est-ce que c'est comparable? Est-ce qu'il y a autant de surfeurs finalement à Hawaï, voire même de tigres, pour pouvoir comparer des choses comparables? Mais même si on arrive à comparer, et je pense que ça va être le cas, ces situations-là, mon hypothèse, c'est que au sein du même espèce, il y a des requins qu'on va qualifier de sympas en Polynésie, et il y en a d'autres qui sont beaucoup moins sympas à Hawaï. Et alors là, on ne va pas rentrer dans cette condition-là parce que c'est un peu compliqué. Pour moi, il peut se cacher de l'épigénétique derrière tout ça, c'est-à-dire en gros
un environnement
et surtout une capacité de certains individus à autres à se transmettre finalement cette habitude qui est de dire finalement ben l'homme, on peut marginalement l'intégrer dans une
donc
diète alimentaire.
Des personnalités très singulières dans certains lieux
voilà.
géographiques.
Pourquoi
c'est
pas,
votre hypothèse.
Ça reste une hypothèse. Et pourquoi pas voilà. une famille de requins, il en suffit d'une en fait, qui poserait problème.
Voilà, Benjamin nous dit, les attaques en Australie ne sont-elles pas surtout dues à l'imprudence et l'ignorance des personnes qui s'aventurent dans des lieux peuplés d'otaries, par exemple. Ça peut être un des problèmes, c'est-à-dire aller directement dans la cuisine du requin, quoi.
Oui, mais alors là, paradoxalement, je risque de vous surprendre, mais il fait référence à la théorie de l'erreur, ou l'hypothèse de l'erreur. Et l'hypothèse de l'erreur, excusez-moi de le dire comme ça, elle est erronée. C'est-à-dire qu'un requin ne se trompe pas, il ne confond pas un homme, c'est-à-dire un surfeur, avec une tortue ou un phoque.
Merci beaucoup en tout cas Eric Lua, pour ceux qui souhaitent avoir plus d'informations et puis également des images, parce que vous êtes aussi photographe, on peut aller sur votre site www.ericlua.com, il est en lien sur La Tête au Carré. Merci beaucoup d'être passé par nos studios cet après-midi.
La science grand format, en partenariat avec France 5.
Et ce soir, 20h50, on vous emmène à Venise, et grâce à vous, Laurence Thiria, puisque vous êtes l'auteur de ce documentaire Venise, le défi technologique, qui sera diffusé dans l'émission Science Grand Format ce soir. Bonjour à vous d'abord.
Bonjour.
L'occasion de découvrir comment est née cette ville.
Oui, tout à fait, parce que contrairement en fait à une idée reçue, Venise n'est pas construite sur l'eau, mais bien construite sur des petits bouts de terre qui se trouvaient dans ce grand marécage de 550 km² qu'est la lagune. Mmh. En fait, les premiers bâtisseurs au 9e siècle vont utiliser la technique des sauniers. Les sauniers, ce sont ces travailleurs du sel, ils vont assécher certaines parties de la lagune dont la profondeur varie entre 1 et 3 mètres. Donc ils assèchent d'abord, ensuite ils remblaient avec tout ce qu'ils trouvent, en fait des bouts de pierre, des bouts de bois, des immondices aussi quelquefois, et ensuite à la force du poignet, ils vont enfoncer des pieux les uns après les autres, et si on soulevait Venise aujourd'hui, eh bien on découvrirait une immense forêt de plusieurs millions de pieux.
On va tout de suite écouter un extrait de votre documentaire, Venise, le défi technologique.
L'histoire de Venise commence ici, à l'extrémité nord de la mer Adriatique, dans cette lagune, un bassin naturel immense de 550 km². L'eau douce des fleuves se mêle à l'eau salée de la mer, qui au gré des marées va et vient dans ce gigantesque réservoir. La lagune est un rempart contre les assauts de la mer. Elle est aussi un environnement capricieux, un marécage, un endroit totalement inadapté à la fondation d'une ville. Il y a 1500 ans, c'est pourtant dans ce lieu improbable qu'un groupe de réfugiés va décider de s'installer pour survivre et bâtir une ville unique au monde.
Et aujourd'hui, Laurence, cette ville est attaquée de toutes parts et les scientifiques sont en permanence à son chevet pour trouver des solutions pérennes.
Et oui, comme on vient de l'entendre, l'eau de la lagune est saumâtre. C'est un mélange d'eau douce qui vient des fleuves et d'eau salée qui vient de la mer. Le sel ronge effectivement absolument tout, d'autant qu'avec la montée des eaux, le réchauffement climatique et ce qu'on appelle aussi les aqua alta, ces hautes marées, on l'a vu en novembre dernier avec 1,56 m, eh bien les murs sont en permanence attaqués par le sel. Il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, l'action de l'homme. Il a construit un pôle chimique en face de Venise, il a percé un immense canal au milieu de cette lagune, je le rappelle, c'est entre 1 mètre et 3 mètres de profondeur, et sans oublier bien sûr le trafic maritime intense. Tous ces éléments sont bien sûr préjudiciables pour Venise.
Qu'est-ce qu'ils peuvent faire alors les scientifiques aujourd'hui concrètement ?
Alors les scientifiques, ils travaillent de toutes parts. Moi j'ai rencontré par exemple une femme que j'aime beaucoup, c'est Elisabetta Zendri, une scientifique qui est en train de chercher, j'ai envie de dire, la potion magique, enfin une sorte de formule chimique pour créer un enduit parfait. Cet enduit, on pourrait l'appliquer en fait au mur, comme ça en fait il absorbe tout simplement en fait le sel. On l'enlève quand il est complètement gorgé de sel et comme ça, ça n'abîme pas la brique, ça n'abîme pas les bâtiments. Mais j'ai aussi rencontré des biologistes, des architectes, des ingénieurs.
Des maçons plongeurs.
Oui,
hein,
des
incroyable.
Maçons plongeurs
on va les voir
qui
ce soir,
régulièrement vont au fond de l'eau pour essayer de colmater en fait les brèches.
Alors vous parlez également de Moïse, ce chantier titanesque qui est censé retenir la mer en quad aqua alta. Comment ça marche exactement?
Alors, aux trois entrées de la lagune, il y a ce qu'on appelle des bouches, en fait, et on est en train d'installer des sortes de portes immenses qui pèsent plusieurs tonnes, qui sont effectivement censées, en fait, je dis bien censées, éviter les assauts de la mer. Mais le chantier a pris beaucoup de retard, et il devait coûter 1 milliard, il en coûte 6, il a commencé en 2003, on est déjà en 2018, on parle vaguement de 2022 pour sa fin, mais rien n'est moins sûr, parce qu'effectivement, il y a de très très gros problèmes.
Voilà, c'est donc ce soir Venise, le défi technologique C'est un film absolument passionnant que j'invite nos auditeurs à regarder très attentivement sur France 5, donc ce soir à partir de 20h50. Merci beaucoup Laurence Siria, vous en êtes la réalisatrice. Merci à vous. Un petit mot également de matière noire, puisque tout à l'heure on recevait David Elbaz, notre invité, pour en discuter. Si vous êtes intéressé par le sujet de la matière noire, j'ai oublié de vous signaler tout à l'heure un de ses ouvrages qui s'appelle « À la recherche de l'univers invisible, la matière noire, l'énergie noire et les trous noirs ». Si vous souhaitez retrouver cet ouvrage, c'est très simple. Il a été publié chez Odile Jacob.